Annie, deuxième partie, chapitre 11. Ce n'était pas la première fois qu'il s'apercevait que les honnêtes gens éprouvent dans la vie des difficultés et des embarras qui n'entravent pas la marche des coquins. Coquin, il eut sans remords supprimé ce testament et les choses auraient suivi leur cours. Mais, honnête homme, il ne pouvait pas employer un moyen qui, pour faire le bonheur des siens, faisait sûrement son malheur à lui, en empoisonnant sa vie. Il se connaissait et savait que ce n'était pas quand, chaque matin, aux premiers instants qui suivent le réveil, on passe l'examen de sa conscience, qu'on pourrait la charger d'un pareil poids. Toutes les subtilités du raisonnement ne tenaient pas contre ce chiffon de papier qui, aux yeux de la loi, faisait du capitaine l'héritier de Gaston. Et, tant qu'on ne lui aurait pas restitué la fortune dont légalement il était propriétaire, on ne pouvait pas espérer le repos. Telle était la vérité. Le reste ne reposait que sur les sophismes du cœur et de l'intérêt personnel. Et encore, se sentait-il convaincu que, s'il était seul, l'intérêt personnel ne s'obstinerait pas dans ses faux raisonnements, qui n'avaient tant de puissance que parce qu'il tenait quand même et malgré tout au bonheur de sa femme et de sa fille. Arrivé à cette conclusion, il n'avait qu'à rentrer chez lui, prendre le testament de Gaston et le remettre à Rébénac. Cependant, il n'en fit rien, et les raisons ne lui manquèrent pas pour différer ce sacrifice. Du côté du capitaine, il n'y avait pas urgence, et quelques jours de plus ou de moins étaient de peu d'importance. Du côté des siens, il ne pouvait pas ainsi, sans préparation, leur porter ce coup, qui jetait sa femme dans le désespoir et brisait le mariage de sa fille. Enfin, lui-même avait besoin de réfléchir encore et de se reconnaître dans le dédale de contradictions où il se débattait. Ce n'était pas à la légère qu'il devait se décider. Aucun inconvénient à attendre, rien que des avantages. En tout cas, on verrait. Les journées s'écoulèrent longues et agitées, les nuits plus longues encore, plus agitées. Mais que peut le temps sur ce qui ne dépend que de notre volonté? Fatalement, la situation ne pouvait pas changer tant qu'il ne se résoudrait pas soit à déchirer le testament, soit à le déposer aux mains de Rébénac. Et par conséquent, ses tourments, ses inquiétudes, ses angoisses resteraient ce qu'ils étaient, avec le remords en plus de son impuissance. Cet état n'avait pas pu se prolonger sans éveiller l'attention de sa femme et de sa fille, et, comme à toutes leurs questions il avait toujours répondu qu'il n'était point malade, elles avaient cherché entre elles quelles pouvaient être les causes de ces changements d'humeur, et Madame Barinck s'était arrêtée à l'idée qu'il fallait les attribuer au mariage d'Annie. « Ton père t'aime trop. Il ne peut pas s'habituer à la pensée que bientôt tu seras perdu pour lui. »« Je ne serai pas perdu pour lui, mais alors même que nous devrions être séparés, je sais qu'il m'aime assez pour accepter ce sacrifice, s'il avait la conviction que c'est pour mon bonheur. Seulement, il faudrait que cette conviction fût bien solide chez lui, et peut-être ne l'est-elle pas au point de ne pas laisser place à l'inquiétude ? Avec un homme charmant comme le baron, quelles inquiétudes veux-tu qu'il ait ? Je ne veux pas qu'il en ait. Je ne dis pas qu'il en a. Mais enfin, cela est possible. Et si cela est, sa préoccupation s'expliquerait tout naturellement. Si ton père avait des craintes, il m'en ferait part. Je suis autant que lui intéressé à ton bonheur. D'ailleurs, quelles craintes M. d'Arjusanx peut-il lui inspirer ? Si je les connaissais, nous serions fixés. Je l'interrogerai. L'occasion était trop belle quand sa femme le questionna sur ses inquiétudes pour qu'il n'en profitât pas. En même temps qu'elle justifiait son souci, qu'il ne pouvait pas nier, elles avaient l'avantage de préparer la rupture des projets de mariage. « Si je n'ai pas de grief précis à reprocher au baron, je ne suis cependant pas rassuré. Pourquoi ne m'en parlais-tu pas ?»«
Précisément parce que les griefs précis me manquent et que je trouve inutile de te tourmenter. Si, comme je l'espère, il n'y a rien contre le baron. »
Alors, pourquoi te tourmentes-tu toi-même ?
Parce que je voudrais savoir ce que je n'apprends pas.
Savoir quoi ?
Ce qu'on veut dire quand on parle de lui, ou plutôt ce qu'on veut ne pas dire.
N'as-tu pas été frappé des réticences qu'on emploie à son égard ?
Réticence, c'est beaucoup.
Le mot ne fait rien à la chose. Pourquoi ces étonnements polis quand il est question du baron ? Pourquoi ces silences quand on voit que nous serions disposés à l'accepter pour gendre, au cas où Annie l'agréerait ?
L'envie, c'est possible, ce n'est pas certain.
Alors quoi ?
C'est ce que je cherche. Voilà pourquoi je ne voudrais pas te voir considérer comme fait un mariage qui, en réalité, peut ne pas se faire.
Tu ne voudrais pas le rompre pour si peu ?
Non, certes, mais j'envisage sa rupture comme possible, si...
Si ?
Si je trouve ce que je cherche. Et cela, tu en conviendras, me donne bien le droit d'être préoccupé.
Enfin, que cherches-tu ?
À voir clair dans ce qui est obscur, à faire préciser ce qui est vague et insaisissable.
Le baron est un galant homme.
Je le crois.
Un honnête homme.
J'en suis sûr.
Alors ?
Galant homme, honnête homme, on peut être mauvais mari. La responsabilité d'un père qui marie sa fille est trop lourde pour qu'il laisse rien au hasard.
Tu t'inquiètes à tort.
Qu'en sais-tu ? Je pourrais te dire que de ton côté tu t'obstines à tort aussi dans ton parti pris de ne voir que ce que tu désires. Si ce mariage peut se faire, il peut ne pas se faire.
Il se fera.
Tu ne peux pas le souhaiter plus vivement que moi.
Ce serait folie de prendre au sérieux des propos en l'air. Il n'y a rien, il ne peut y avoir rien contre le baron. Et ce que tu crois de la suspicion est simplement de l'envie.
Envie chez ses amis parce qu'Annie lui apporte une belle fortune. Envie chez nos amis, à nous, parce qu'il apporte à Annie un beau nom.
Il s'attendait à cette résistance et n'alla pas plus loin. Maintenant que l'ouverture était faite, il pourrait revenir sur cette rupture et amener peu à peu l'esprit de sa femme à en admettre la possibilité, afin que le jour où elle se produirait, elle ne fût pas un coup de foudre. Avec Annie, il procéda de la même façon, mais l'accueil qu'elle fit à ses paroles entortillées ne ressembla en rien à celui de sa mère.
S'il y a dans ce mariage quelque chose qui t'inquiète, lui dit-elle,
le mieux est d'y renoncer tout de suite.
Tu n'en souffrirais pas, ma chérie ?
Pas du tout, je t'assure. Quand tu m'as fait part de la demande de M. d'Arjusanx, je t'ai répondu que je n'en étais ni charmé, ni fâché. J'en suis toujours au même point. Je crois t'avoir dit aussi, faisant mon examen de conscience, que je ne trouvais en moi qu'une parfaite indifférence à son égard. Bien que, depuis ce jour-là, nous nous soyons rencontrés 5 fois, je n'ai point changé. Dans ces conditions, je pense donc que, ce mariage ne t'offrant plus les avantages que tu y trouvais, surtout une entière sécurité, le mieux est de le rompre avant d'aller plus loin. Tu ne le regretterais point ?
Comment pourrais-je le regretter, puisque je ne sais pas encore si je l'accepterai ?
Alors, ces entrevues de Biarritz n'ont rien produit ? Elles auraient produit un ennui réel si elles n'avaient pas eu lieu au bord de la mer, qui était une distraction, et si, d'autre part, elles n'avaient pas été égayées par le capitaine.
Ah ! Le capitaine !
Cette exclamation fut prononcée d'un ton qui frappa Annie.
Que trouves-tu d'étonnant à ce que je dis là ?
Il l'examinait. Pendant un certain temps, il la regarda sans répondre.
« Je me demande, dit-il, si tu n'accordes pas au capitaine des mérites que tu refuses au baron.
Il n'y a aucune comparaison à faire entre eux. »
De nouveau, il garda le silence, et elle fut toute surprise de voir que les mains de son père tremblaient, comme si elles étaient agitées par une profonde émotion.
« Qu'as-tu ? » demanda-t-elle.
Il ne répondit pas, et il se mit à marcher en long, en large, à pas saccadés, la tête haute, les yeux brillants, les lèvres frémissantes.
« Une idée, » dit-il tout à coup en s'arrêtant devant elle. « Une idée que me suggère ta réflexion à propos du capitaine et qui me fait te demander de répondre franchement à la question que je vais te poser. »
Elle est donc bien grave, cette question, qu'elle te met dans cet état d'agitation ?
La plus grave qui puisse se présenter pour toi, pour moi.
Alors, dis tout de suite.
Si le capitaine avait demandé ta main, ta réponse aurait-elle été celle que tu as faite au baron ?
Mais, papa,
je t'en prie, je t'en supplie, ma chérie, sois franche avec ton père. Tu ne sais pas quelles conséquences peut avoir la réponse que je demande.
Mais je m'en doute bien un peu, à ton trouble.
Alors parle, parle.
Eh bien, je reconnais, pour parler comme toi, que j'accorde au capitaine des mérites que je ne vois pas dans le baron.
Et ces mérites auraient-ils été assez grands pour que, malgré son manque de naissance, ou plutôt malgré la tare de sa naissance, et aussi malgré son manque de fortune, tu l'acceptes comme mari ?
Justement, parce que, grâce à l'héritage de mon oncle, la fortune ne compte pas pour moi, j'aurais aimé à choisir mon mari en dehors de toute préoccupation d'argent. Ne pas le refuser parce qu'il aurait été pauvre, ne pas l'accepter parce qu'il aurait été riche.
Et la naissance ?
Ah ça, c'est une autre affaire. Il est certain que dans le monde, le baron d'Arjusanx, dont les ancêtres occupaient des charges auprès du roi Henri, fait une autre figure que le capitaine Valentin Sixte.
Tu l'aurais donc refusé pour cette tare ?
Je ne dis pas ça. J'aurais regretté que le capitaine n'eût pas le nom du baron. Mais je regrette encore bien plus à tous les autres points de vue que le baron ne soit pas le capitaine.
Oh, ma chère enfant, tu voulais de la franchise.
Ma chère petite Annie, ma fille, mon enfant bien-aimé, ma chérie.
Il l'avait prise dans ses bras et il l'embrassait.
Le capitaine m'a demandé, dit-elle.
Non.
Ah, mais cela ne fait rien.
Ben, cela fait tout au contraire. Comment peux-tu me poser de pareilles questions ?
Je ne t'ai répondu que parce que je croyais à cette demande.
Elle se dégagea des bras de son père et alla à la fenêtre pour cacher sa confusion.
Doucement, il vint à elle et, lui mettant la main sur l'épaule avec tendresse,
« Ne me suppose pas des intentions qui sont loin de ma pensée, dit-il. Rien, je t'assure, ne peut m'être plus doux que ce que tu viens de m'apprendre.
Rien, rien. »
En effet, plus d'une fois il avait vaguement entrevu un mariage entre Annie et Sixte, comme la fin des angoisses au milieu desquelles il se débattait désespérément. Tout, de cette façon, était tranché pour le mieux. Annie ne perdait pas la fortune de son oncle, et, de son côté, Sixte héritait de son père. Ainsi se conciliaient les droits de chacun. Pas de lutte, pas de sacrifice ni d'un côté, ni de l'autre. Plus de doute sur la validité du testament, pas plus que sur la filiation du capitaine. Ce n'était ni comme fils, ni comme légataire qu'il jouissait de la fortune de Gaston, mais comme mari d'Annie. Et de son côté, ce n'était pas en qualité de nièce qu'elle gardait cette jouissance, mais comme femme du capitaine. S'il ne s'était pas arrêté à cette idée,
lorsqu'elle avait traversé son esprit, s'il n'avait même pas voulu l'examiner lorsqu'elle lui revenait malgré ses efforts pour la chasser, c'est qu'il la considérait comme un misérable calcul et la spéculation honteuse d'une conscience aux abois. N'était-ce pas vendre sa fille? Et de sa vie, de son bonheur, payer leur repos à tous et la fortune? Mais du moment que spontanément, sans que ce fût un sacrifice pour elle, Annie préférait le capitaine au baron, la situation se retournait. À marier Annie et le capitaine, il n'y avait plus ni calcul, ni spéculation. On ne la vendait plus et, en même temps qu'on tranchait l'inextricable difficulté du testament, en même temps qu'on faisait un juste partage de la succession de Gaston entre ceux qui, à des titres divers, avaient des droits pour la recueillir, on assurait le bonheur de ceux qu'on mariait. Quel meilleur mari pouvait-on souhaiter pour Annie que ce beau garçon intelligent, franc, loyal, que cet officier distingué devant qui s'ouvrait le plus brillant avenir? Quelle femme pouvait-il trouver qui fût comparable à Annie? De là son élan de joie quand il avait entendu Annie venir au devant du désir qu'il n'avait même pas osé former. « Tu m'as parlé franchement, reprit-il, parce que le capitaine te plaît, et aussi parce que tu sais que, de ton côté, tu plais au capitaine. »« Mais je ne sais rien du tout, s'écria-t-elle en se retournant vers son père. « Tu ne le sais pas, j'en suis certain. Il ne te l'a pas dit, je le crois. Mais cela n'empêche pas que tu n'en sois sûr. Une jeune fille ne se trompe pas là-dessus. C'est là l'essentiel. Le reste est de peu d'importance. Mais que veux-tu donc? Que tu épouses le capitaine, puisqu'il te plaît. Mais ce ne sont pas les jeunes filles qui épousent. On les épouse. » Si le baron ne te plaît pas, et si au contraire le capitaine te plaît, il y a, d'autre part, tant d'avantages à ce que ton mariage avec le capitaine se fasse que nous devons nous unir pour qu'il réussisse. Mais je ne peux pas lui demander de m'épouser. Il ne s'agit pas de cela. Ce qu'il faut avant tout, c'est que tu refuses, monsieur d'Arjusanx.
C'est facile, et j'y suis toute disposée. Je n'ai accepté ces entrevues que pour t'obéir.
Tu veux maintenant que nous les supprimions?
Je t'obéis encore bien plus volontiers.
Quoi qu'il arrive, je ne regretterai point monsieur d'Arjusanx. Je n'ai pour lui ni antipathie, ni répulsion. Il m'est indifférent. Voilà tout.
Et ce n'est vraiment pas assez pour l'épouser. Ami, oui. Mari, non.
De son côté, ce que tu désires est donc fait.
Seulement, je serais curieuse de savoir pourquoi tu le voulais pour gendre il y a un mois et pourquoi tu ne le veux plus aujourd'hui.
Il resta un moment assez embarrassé.
N'était-il pas alors ce qu'il est encore?
Et du côté du capitaine, as-tu appris des choses qui te le montrent sous un jour plus favorable?
Il avait eu le temps de se remettre.
J'ai, à plusieurs reprises, entendu parler de monsieur d'Arjusanx d'une façon qui ne m'a pas plu.
Que disait-on?
Oh, rien de précis, mais c'est justement le vague de ses propos qui fait mon inquiétude.
Quant au capitaine, j'ai au contraire appris à le connaître sous un jour qui a singulièrement augmenté ma sympathie pour lui et l'a transformé en une estime sérieuse.
« Comment cela ? » demanda-t-elle avec une vivacité caractéristique.
« En lisant ses lettres à Gaston. Cette correspondance qui commence quand le jeune garçon entre au collège de Pau et se continue sans interruption jusqu'à ces derniers temps a été conservée par ton oncle. On l'a trouvée à l'inventaire et je viens de la lire. C'est une confession, ou plutôt, car elle ne contient l'aveu d'aucune faute, un journal qui embrasse toute sa jeunesse. Quels renseignements vaudraient ceux qu'il donne lui-même dans ses lettres, où on le suit pas à pas, où l'on voit se former l'homme qu'il est devenu, et un homme de cœur, de caractère, droit, loyal, que la tare d'une naissance malheureuse n'a point aigri, mais qu'elle a au contraire trempé. Enfin, le type du mari qu'un père qui connaît la vie choisirait entre tous pour sa fille. Pendant qu'il parlait, elle souriait sans avoir conscience de l'aveu que son visage épanoui trahissait. « Alors, ces lettres ?» dit-elle machinalement pour dire quelque chose et pour le plaisir de parler de lui. « Ces lettres sont un panégyrique, d'autant plus intéressant qu'il est écrit au jour le jour. Sais-tu quelles étaient mes pensées en les lisant ?»« Dis, je me demandais comment ton oncle n'avait pas eu le désir de te le donner pour mari, ce qui conciliait tout, son affection pour ce jeune homme et ses devoirs envers nous. Il n'a pas exprimé ce désir. Cela est vrai, mais ce qu'il n'a pas fait, pour une raison que nous ignorons, simplement peut-être parce que la mort l'a surpris, je puis le faire. Si ton oncle avait des devoirs envers nous, envers moi, envers toi, je me considère comme en ayant envers le capitaine, qui a certainement des droits à la fortune dont nous héritons, quand ce ne serait que ceux que donne l'affection partagée. Un mariage entre vous règle tous ses devoirs comme tous ses droits, et de plus, il assure ton bonheur. Tu comprends pourquoi j'ai été si heureux quand je t'ai entendu manifester avec franchise tes sentiments? Et maintenant? Quoi maintenant? J'entends, que veux-tu faire? Allez trouver Rébénac, qui est l'ami et le conseil du capitaine. Mais Monsieur Rébénac ne peut pas offrir ma main à Monsieur Sixte. Assurément, mais Rébénac peut lui faire comprendre quels sont mes sentiments à son égard, et adroitement, discrètement, lui laisser entendre que, s'il voulait devenir le mari d'une belle jeune fille qu'il connaît et qu'il a pu apprécier, il n'aurait qu'à plaire à cette belle fille et se faire aimer d'elle pour que la famille l'accueillît, malgré son manque de fortune, à bras ouverts. Il n'y a point là d'offre, dont je ne veux pas plus que toi, mais une ouverture, comme en doivent faire ceux qui sont riches à ceux qui ne le sont pas.
Y a-t-il là-dedans quelque chose qui ne te convienne pas ?
Au lieu de répondre, elle interrogea. Et Monsieur d'Arjusanx ?
Je lui écrirai que nos projets ne peuvent pas avoir les suites que nous espérions.
Que vous espériez, lui et toi ?
Dame, n'es-tu pour rien dans cette rupture ?
J'arrangerai les choses de façon à porter ma part de responsabilité.
Fais-la légère pour toi, plus grosse pour moi. Ce ne sera que justice.
Mais ce que je voudrais encore, ce serait qu'au lieu d'aller trouver M. Rébénac et d'écrire ensuite à M. d'Arjusanx, tu commences par cette lettre. Je connais assez M. Sixte pour être certaine qu'il ne consentirait pas à entrer en rivalité avec un ami. S'il est sensible à l'ouverture de M. Rébénac, ce ne sera certainement que quand il aura la preuve que cet ami a été refusé.
Tu as raison.
J'écris tout de suite au baron et demain seulement, j'irai voir Rébénac.
Et maman, tu es d'accord avec elle ?
Je compte sur toi.
Tu sais qu'elle trouve toutes les qualités à M. d'Arjusanx. La naissance, la distinction, la beauté, et bien d'autres choses encore, sans parler de sa fortune, qui ne peut pas être comparée à celle de M. Sixte.
Ta mère ne veut que ton bonheur.
Quand elle sera convaincue que tu n'aimeras jamais M. d'Arjusanx, elle cédera.
Enfin, je ferai ce que tu veux, mais si nous partageons les responsabilités, partageons aussi les difficultés. Que j'amène maman à accepter ta rupture d'un mariage qu'elle souhaite si ardemment, toi, de ton côté, amène-la à accepter celui que tu désires.
Et toi, ne le désires-tu pas aussi ?
Elle vint à son père, les yeux baissés, marchant avec componction.
une fille soumise n'a d'autre volonté que celle de son papa.